Bonjour à tous, nous sommes donc réunis pour ce dernier cours et je l'ai intitulé Liturgie cosmique. C'est pour les auditeurs ordinaires du CIF leur dernier cours, effectivement, sur un parcours de 2 ans. Et pour ceux qui nous ont rejoints pour ces 4 soirées, eh bien c'est ce cours qui clôture, ferme cette série de 4. Liturgie cosmique donc. Vous avez ouvert ce dossier son, bien entendu, puisque vous m'écoutez, et en même temps le dossier d'image. Et nous sommes là avec toujours cette image générique de la Géorgie. Bien que le texte du pape François ait été une surprise pour tous, tant pour la sphère ecclésiastique que pour les différentes strates du politique, l'idée de l'écologie inclusive qui est exprimée appartient en fait à la tradition, à la pensée la plus traditionnelle de l'Église. C'est ce que nous allons voir dans ce dernier cours. Je l'ai intitulé Liturgie cosmique, ce qui enracine le propos dans une double tradition, celle du cosmos, du moins du rapport que nous avons au cosmos, de sa perception dans la tradition de l'Église, et seconde source, la tradition liturgique elle-même, c'est-à-dire l'œuvre du peuple de Dieu, que nous verrons davantage par son aspect architectural. Voici comment nous allons avancer. Tout d'abord, je vous ferai, il y a 4 documents à ouvrir, le chapitre 1, le livre de la nature, comporte 2 documents. Je le fais toujours pour des raisons de facilité de transfert. Sinon, le dossier serait trop lourd. Et le chapitre 2 également en 2 documents, Cosmos et Liturgie. Dans le premier chapitre, nous irons visiter la tradition médiévale. Vous verrez qu'il y a pour vous du bien connu et de vraies nouveautés aussi pour notre pensée de l'écologie. Bien que ce soit une pensée traditionnelle, vous allez voir qu'il y a bien des aspects que vous allez découvrir. Dans le second chapitre, nous méditerons à nouveau sur les Écritures. Nous avons la dernière fois relu les versets de Genèse chapitre 1 qui ont causé tant de polémiques concernant la confiance faite à l'homme. Eh bien, nous irons aujourd'hui visiter, relire quelques grands textes de l'Ancien Testament, très féconds pour la pensée de l'écologie, auxquels le pape François fait allusion. Mais auparavant, je voudrais faire une introduction en 2 points. Ma première introduction, aussi haut qu'on puisse remonter, les civilisations se sont toujours interrogées sur leur environnement, sur le cosmos, sur le monde ambiant. Les humains se sont intéressés à la nature pour y connaître les lois, pour pouvoir mieux y vivre, ou tout simplement par simple curiosité intellectuelle. Mais intéressés, comment et pourquoi? Alors ici, je vais donc, j'ai annoncé que toutes les civilisations, mais je vais me rétracter dans la culture chrétienne, mais bien évidemment, il y aurait à revoir tout ce que je vais dire. Mais dans les cultures chinoises, par exemple, amérindiennes, mais évidemment, je connais beaucoup moins bien. Je veux dire par là que c'est véritablement cette pensée de l'alentour, cette pensée du monde est évidemment une interrogation, un intérêt universel. Le monde chrétien, c'est déjà vrai chez les Grecs, cherche à comprendre le monde qui nous environne, le cosmos, qui est notre milieu de vie, parce qu'il y cherche les lois éternelles. C'est-à-dire qu'il pense qu'en comprenant le monde et ses mécanismes, il entre dans l'intelligence même du Créateur et donc participe en quelque sorte à sa nature divine. Il y a alors dans ce qu'on n'appelle pas encore les sciences mais les arts, il y a une fonction quasi religieuse. Et le travail de l'intelligence descriptive, le travail qui consiste à comprendre le monde dans lequel nous vivons est une expérience religieuse. Et l'homme est donc inter-essai, sa compréhension, contemplation, lui donne de participer à quelque chose de l'essai, de l'être divin, du logos éternel. Il est encore intéressé pour une autre raison. Les hommes s'intéressent à la nature pour y apprendre, presque par apprentissage. Ils vont apprendre en quoi elle est utile à la vie, en quoi elle est utile à notre existence, en quoi elle peut nous aider. Les hommes observent les fourmis, les castors, le vent, puis ils vont construire, en imitant la nature, ou en s'adaptant à la nature et en trouvant en elle des sources d'inspiration. Tout de la nature va donner à l'homme de quoi se servir d'elle en la faisant servir. Le feu, l'eau, les matières premières, les végétaux, tout est utile. Et cette utilité n'est pas asservissement, parce que l'homme chrétien, mais pas uniquement lui, croit qu'en la faisant œuvrer, il contente la nature, comme si sa vocation à la nature était de développer sa force par notre biais. D'où un troisième aspect, il y a entre les choses et les humains une estime mutuelle. Nous allons le voir dès le premier point dans un instant. Ça, c'est quelque chose que nous avons oublié, tant la culture de la consommation, de l'asservissement des choses, de leur objectivation, de leur réduction à des objets disponibles, si vous voulez, s'est imposée avec la modernité. Donc voilà, je vous ai donné trois caractéristiques d'un comportement écologique avant l'heure, si l'on peut dire. Trois caractéristiques qui habitent toute la tradition religieuse, mais surtout chrétienne, et depuis toujours. Ça fait partie, vous voyez, du corps de la doctrine traditionnelle de l'Église, et nous ne savions pas au XIXe, XXe siècle. Une seconde introduction me paraît utile pour bien comprendre ce que comprendre veut dire dans l'immense culture mondiale d'avant le désenchantement. Ce sont les jeux des mots qui vont nous le permettre. Prenons les mots astrologie et écologie. Les deux mots ont en quelque sorte leur frère faux jumeau, astronomie, économie. Nous avons là des racines lexicales bien connues, nomos qui désigne la règle, l'étude des lois, logos qui veut dire pensée, parole, intelligence. Vous savez que la différence que nous faisons entre astrologue et astronome est de nos jours fondée sur l'usage de la raison critique. On répute les astrologues être plus du côté des croyances que du côté de la science. Mais évidemment, il n'en a pas toujours été ainsi. Les mages, par exemple, de la crèche, étaient des savants, à leur manière, et même certainement dotés de règles de calcul et de mesures. Donc ils étaient un peu du côté du nomos, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qui étudie les règles. Ce qui est certain, c'est que les astrologues se savaient sujets du monde. Voilà ce qui est important de bien entendre, et c'est ça la mentalité d'avant le désenchantement. Vous voyez, étrange expression que j'utilise assez souvent. L'astrologue se sait hôte du monde, tandis que l'astronome, qui connaît de mieux en mieux les règles des astres, entre dans le mouvement de la modernité scientifique qui tente à assujettir le monde, à le voir, le regarder, le mesurer selon ses règles établies, pourtant rationnellement. Son regard plie la réalité, filtre en vérité ce qui est observé par ses prévisions, fondées en raison. Il y a chez l'homme de science, si vous voulez, il y a chez l'astronome, il y a chez lui une tendance à la toute-puissance, et peut-être même au dogmatisme. L'économie, par exemple, qui aujourd'hui fait partie des sciences, l'économie tend à nous faire croire, vous voyez que les mots comptent, tend à nous faire croire une science. Elle tend à nous faire croire qu'il y a une loi du marché. Peut-être y en a-t-il une, mais qu'on nous laisse la liberté de vouloir la modifier, et même qu'on nous laisse la liberté de douter qu'il y ait une loi du marché. Or, les positions sur ce point sont extraordinairement assénées comme des vérités indiscutables par des cardinaux des sciences, spécialistes, auréolés, canonisés, devrait-on dire, par les sciences exactes. Alors je fais exprès, vous voyez, d'utiliser de manière un peu provocante un vocabulaire qui appartient ordinairement au vocabulaire religieux. Je veux juste indiquer ici qu'il y a dans la nomie, astronomie, économie, une pente, un risque, une dérive, un emprunt au phénomène de croyance, celui qu'on impose par la force du dogme. Il y a probablement beaucoup de dogmatisme dans ce que nous appelons aujourd'hui les sciences exactes. Les dogmes ne sont pas forcément du côté qu'on croit. Les mêmes, d'ailleurs, les mêmes cardinaux des sciences exactes réputent les logies, astrologie, économie, de ne pas être très sérieuses. Elles sont réputées être des amusettes pour faibles d'esprit. Ce que pourtant n'implique pas du tout la racine lexicale logos, qui veut plutôt dire pensée, parole, quelque chose donc qui va du côté de la raison. Mais il est bien vrai qu'il y a du côté du logos une croyance, mais plutôt celle qui poétise le monde. Autant l'astrologie que l'écologie espèrent une entente entre l'observateur et l'observé, quelque chose de familier, vous voyez, qui donc dépasse le seul entendement de la raison. Il faut donc conclure que le seul rationnel, le rationnel seul, quand il est seul, tend facilement au dogmatisme, qui est pourtant un équipement et le plus malheureux des croyances. Et il faut aussi conclure que croyance et raison ne sont pas antinomiques. Écologie, en écologie donc, il ne faudra pas reprocher l'usage de ce que j'appelle le transrationnel. Transrationnel, ça ne veut pas dire que vous négligez la raison ou que vous passez outre le rationnel, mais c'est que vous le traversez et l'ayant traversé, vous l'honorez en allant plus loin que lui seul. Eh bien, c'est le propre des logis, écologie. Le concept de résonance dont j'ai parlé avec Armut Rosa la dernière fois se situe bien dans ce jeu de la raison. Mais il faudra évidemment veiller aussi à ne pas basculer dans l'irrationnel. Il y a par exemple quelque chose de franchement déraisonnable, ou peut-être bien irrationnel, dans certaines appréciations de la cause animale, en ce moment, depuis une quinzaine d'années, ou encore dans quelques propos, pas tout, mais quelques propos du mouvement vegan sont parfaitement irrationnels. Pareillement, l'écologie n'est pas à l'abri du dogmatisme, ou bien, évidemment, de la déraison. Au moins, peut-on espérer que l'écologie échappe à la tentation de la puissance. Ça, c'est le minimum qu'on puisse espérer. Par essence, l'écologie veut échapper à cette saisie du tout, à cette volonté, tentation de toute puissance. Ce à quoi n'échappe pas, ce à quoi n'échappe jamais, ou alors à très grand peine, l'économie. La nature de l'économie, doublée de la finance, c'est la toute puissance. Et donc, dans l'expression liturgie cosmique, il y a autant d'usage de la raison, raison théologique principalement, vous allez voir, que de poésie et de louange. Mais, comme nous le verrons, la poésie, la louange, la gratitude sont aussi des formes d'intelligibilité du monde qui a beaucoup perdu, lui, le monde, dans le phénomène du désenchantement. Alors, après cette longue introduction méthodologique, disons, abordons notre premier chapitre, le livre de la nature, nous allons voir le premier point, l'heureuse frugalité. La nature est pensée dans la tradition théologique comme création, ce qui veut dire qu'on peut y découvrir, en comprenant son fonctionnement, l'intelligence même du Créateur, on peut y faire compagnonnage avec le Logos éternel. On peut acquérir une vraie sagesse en se conformant à la nature. On peut enfin pactiser avec elle comme avec un partenaire plein d'intelligence. C'est ce que nous avons vu dans l'introduction. Encore faut-il apprendre à lire. La nature se lit, en effet, mais elle se lit comme un livre. C'est-à-dire, il faut apprendre. C'est la longue tradition dite du livre de la nature. Et c'est une tradition qui va de Origène jusqu'à la Renaissance. Vous voyez que ce n'est pas rien. Voici ce que nous allons faire. Nous allons rendre visite à 5 grands penseurs du christianisme médiéval. Je regroupe Saint Bernard et Saint François, pourtant très différents, vous allez le voir, hein, quant à leur regard sur la nature. Mais ils ont un point commun, c'est de promouvoir la frugalité. Ensuite, nous verrons, c'est ce que nous allons faire dans ce dossier. Ensuite, nous verrons au dossier suivant Saint Hildegarde et Saint Bonaventure avec la théorie des harmonies générales, ce que j'appelle jouir du monde. Et puis enfin, on fera une station un peu importante auprès d'un personnage peu connu, Isaac de l'Étoile. Alors, allons-y. Saint Bernard, donc, le premier champion de l'heureuse frugalité, c'est un personnage exceptionnel, au caractère très fort. Il est le promoteur de l'ordre cistercien. Cistercien, ça veut dire de sitôt, qui a été fondé par Robert de Molem. Mais c'est lui qui va donner de l'ampleur à l'ordre cistercien. Il fonde de son vivant quelques dizaines de monastères. Et cette fondation s'inscrit sur une tradition très claire. On travaille comme des paysans, on prie pour un tiers du temps, on bâtit beaucoup, et une petite spécificité par rapport aux autres ordres monastiques, l'autonomie des fondations. C'est-à-dire, je vous ai dit qu'il avait fondé de son vivant quelques dizaines de monastères, et bien ces monastères deviennent autonomes au bout de très peu d'années. Saint Bernard est un ascète. Il refuse le confort, entre guillemets, de Cluny, la grandiose abbaye bénédictine de Bourgogne. Il veut, et c'est ça le cœur de notre question, le rapport à la nature, il veut restaurer le monde des faits. Voilà son idée. Le monde a été dégradé. Et il veut le restaurer dans le rapport qu'il devrait avoir avec son Créateur. Si vous voulez, il veut remettre de l'ordre, il veut refaire de ce monde un cosmos ordonné. Celui-ci, le cosmos, la nature, en effet, a été déréglé, pense-t-il, par le péché de l'homme. Que n'aurait-il dit aujourd'hui ? Pour lui, le dérèglement, c'est tout ce qui est inhabitable. Ce n'est pas normal, ce n'est pas la vocation de la nature que d'être inhabitable. La vocation de la nature, c'est de se faire hospitalière à l'homme. Et la vocation de l'homme, en retour, c'est d'en être le jardinier. Et donc, il va aller planter ses monastères dans des marais, dans des forêts, bref, il va aller vers le chaos pour restaurer l'œuvre du Créateur. Du coup, évidemment, il a un regard ambigu, il faut bien le dire, sur cette nature. Elle est pour lui un lieu d'épreuve. La nature, c'est le combat. Et s'il n'y a plus de martyrs, il y a encore une lutte possible et une offrande de soi, corps, âme et force. Et ce lieu de combat, bah, c'est la nature. La nature telle qu'elle est faite, qu'il va falloir, en quelque sorte, restaurer. Il va falloir se battre. D'un marais, il fait une pisciculture, ou bien il draine, il canalise, il crée des moulins. L'abbaye de Fontenay, par exemple, aura, comme vous le savez peut-être, des forges. Bref, les cisterciens restaurent le monde, restaurent le créé. L'ordre de Cîteaux va mettre au point je vous l'ai dit par allusion, une économie très spécifique, très active, très opérationnelle, très créative et très locale. Et il y a des choses là qui sont très intéressantes, même sur le plan écologique. L'autonomie laissée très vite aux différentes fondations, appelées abbayes filles, permettra un développement local, très important. Et ça va être très important pour ce que va devenir la France agricole et viticole. Pratiquement toute la cartographie des vignobles en France est liée aux implantations locales, soit des prieurés clunisiens, soit des abbayes filles de Citeaux. Cluny, en comparaison, Cluny est beaucoup plus hiérarchique. Et tout est centralisé et tenu, en quelque sorte, par l'Église mère. Ça donne un autre type de gouvernance. Si vous voulez, la France jacobine hérite bien plus de Cluny que de Citeaux. Vous voyez, avec cette espèce de, je sais pas comment dire, de gangrène du centralisme pyramidal. Et ça engendre évidemment aussi un autre type d'économie, beaucoup plus capitaliste, disons, pour ce qui est pyramidal, beaucoup plus fécondante pour tout ce qui est local. Bon, à grands traits. Hein. Mais quant au rapport à la nature, il faut bien le dire, les cisterciens partent en lutte pour redresser la nature. Et la nature, le cosmos, est redouté, parce que là où ils vont, ils y vont parce que c'est le chaos. Et donc il s'agit de vaincre ce chaos, de soumettre, de transformer ce chaos en cosmos. Bien sûr, avec l'idée que ce dur labeur est une œuvre de restauration. Ce sont les retrouvailles avec le monde tel qu'il fut créé. Alors pourquoi, du coup, je parle d'une heureuse frugalité? Alors la frugalité, certes, elle est garantie. Chez les cisterciens, la vie est rude, on vit très sobrement. Ça n'a pas grand-chose d'heureux. C'est une heureuse frugalité, entre guillemets, que cette rudesse du combat, parce qu'elle est l'ordinaire de l'ascèse, du dépouillement. Cette frugalité va permettre aux moines d'exaucer, de faire grandir sa vocation au dépouillement, au combat ascétique, au combat du martyr. Elle fait le salut du moine parce qu'elle lui donne de travailler à l'œuvre du Créateur. Voilà en quoi elle est heureuse. Tandis qu'avec saint François, notre second personnage repère, la frugalité est heureuse. Vous voyez, ce n'est pas une heureuse frugalité, c'est une frugalité heureuse. C'est-à-dire, pour le coup, source de bonheur, de vie bonne, de plaisir, de joie et de chant. Inutile de préciser que le rapport de saint François à la nature n'a pas grand-chose à voir avec celui de saint Bernard. Saint François naît un siècle après Bernard. C'est un ascète, lui aussi. Pauvreté, rusticité, dépouillement. Mais pas du tout dans le même esprit. Lui, François, vise le détachement de la pauvreté, c'est-à-dire rupture avec la richesse, et en particulier, rupture avec les ordres religieux bénédictins, mais également, assez vite, hélas, avec les cisterciens, qui finissent, comme les évêques, à vivre de leur rente, que ce soit celle des terres, des fermes, ou que ce soit celle des bénéfices et des taxes. Et dès sa vocation, François veut renoncer à hériter. Il veut renoncer à toucher des bénéfices, à profiter des rentes. Et donc, vous connaissez certainement le récit de sa vocation, il a 24 ans, et son père le met en procès, parce qu'il a dilapidé les biens d'une entreprise de draperie très fortunée. Et donc on comparait en jugement, et le juge à l'époque c'est l'évêque. On est au début du XIIIe siècle, il a 24 ans, et que fait-il quand il comparaît dans la salle de procès? Eh bien il se met nu devant l'évêque, il donne ses vêtements à son père, et il lui dit « mais je ne veux rien recevoir de bénéfices, de taxes, de faveurs, de privilèges ». Et à ce moment-là, l'évêque l'enveloppe de sa chape, non pas parce qu'il aurait quelque pudibonderie à voir dans sa salle d'audience un homme nu, mais tout simplement parce qu'il adopte, il adoube en quelque sorte le jeune François pour ce projet qui est tout à fait extraordinaire. Saint François ne veut pas que les franciscains qu'il fonde en 2010 construisent trop, s'installent trop. Ah, vous savez peut-être qu'il sera très déçu à la fin de sa courte vie, il est mort à 44 ans, il sera très déçu de voir des bâtiments puissants se dresser pour l'ordre franciscain à Assise même. Pas besoin de tout ça, dit-il. Pas besoin de palais, de cloîtres, de maisons-mères, parce que, dit-il, et voilà la clé pour le comprendre et entendre un nouveau rapport au monde, parce que, dit-il, la nature sera votre cloître. Et donc, le rapport à la nature s'en trouve très différent par rapport à Saint-Bernard. Pas de lutte, pas de maîtrise, pas de mainmise. La nature sera de... Le rapport à la nature sera de contemplation, de retenue, de gratitude, d'émerveillement. Vous connaissez l'hymne à Frère Soleil. François vit une sorte de fraternité universelle, un respect du vivant. Rien ne peut être réduit à un objet, à un ustensile. On peut utiliser les choses. Encore faut-il s'entendre avec elles. Il faut en quelque sorte, il ira jusque-là, il faut obtenir son accord pour utiliser un animal, pour utiliser une chose, même pour utiliser un paysage. Alors pour l'époque, et même encore de nos jours, c'est une pensée très étrange et véritablement écologique. Et ce n'est pas sans raison, bien sûr, vous l'avez évidemment compris, que le pape actuel a choisi ce prénom de François. Je n'y insiste pas sur Saint François parce que c'est quand même bien connu, mais vous voyez bien que cette figure si populaire ne l'est pas sans raison. François est tellement populaire qu'il a été canonisé 2 ans après sa mort. Je crois que c'est un cas unique. Il a été canonisé autant par la Vox Populi que par les prélats romains, ce qui est encore très étonnant. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans cette façon d'être au monde et qu'il a voulu promouvoir. Il y a quelque chose que tout le monde reconnaît comme juste. Que ce soit le prélat installé dans son palais jusqu'au paysan, tout homme donne un secret assentiment à cette façon de se comporter à l'égard du monde, des vivants et de la nature. C'est une grande et belle pensée écologique avant l'heure. Voilà, nous nous arrêtons là pour faire une petite pause, sinon ce document aurait été trop lourd, et vous ouvrez le document 2 pour la suite.